Bonjour Anne.
Bonjour. Alors que la Russie a lancé des drones cette nuit contre Kiev en Ukraine, drones dont les frappes ont fait au moins 14 blessés, Donald Trump a reconnu hier soir n'avoir effectué aucun progrès visant à mettre fin à cette guerre. Un aveu d'échec à l'occasion d'un appel téléphonique entre le président américain et Vladimir Poutine. Le président russe venait de dire au président américain qu'il ne renoncerait pas à ses objectifs en Ukraine, tout en se disant ouvert à la poursuite des négociations avec Kiev. Cette discussion a duré environ une heure à Moscou. Elle a été qualifiée de franche par le conseiller diplomatique du Kremlin, Sylvain Tronchet.
S'il y a bien une chose que l'on peut accorder à Vladimir Poutine, c'est la constance. Lors de ce nouveau coup de fil officiel avec Donald Trump, le chef du Kremlin a répété ce qu'il avait dit exactement lors des cinq précédents. La Russie ne renoncera pas aux objectifs de son opération militaire spéciale. Il faut éliminer les causes profondes du conflit en Ukraine. En clair, le président russe a de nouveau répondu par une fin de non-recevoir à son homologue américain qui lui a demandé à nouveau d'envisager la possibilité d'une trêve. Moscou affirme même qu'il n'a pas été question de l'arrêt de la livraison de certaines armes américaines à l'Ukraine. Faute de pouvoir avancer sur ce sujet, les deux dirigeants ont donc parlé de l'Iran, du Moyen-Orient en général et, précise un conseiller du Kremlin, de la possibilité d'échanger des films faisant la promotion des valeurs traditionnelles, puisque sur ce sujet, la Maison-Blanche et le Kremlin sont en phase.
Aux États-Unis, la Chambre des représentants a également voté hier soir le vaste projet de loi budgétaire, projet qui prévoit des baisses d'impôts massives et des coupes dans les dépenses sociales. Sébastien Paour, c'est une victoire législative majeure cette fois-ci pour Donald Trump.
Il n'avait rien à son agenda mercredi et il a passé les dernières heures au téléphone avec les élus de son camp hostiles au texte. Trump a, semble-t-il, été convaincant. Il a ramené dans le rang les membres de l'aile ultra-conservatrice des Républicains opposés à une telle hausse du déficit. Près de 3300 milliards de dollars de plus sur 10 ans avec cette loi, d'après le bureau du budget du Congrès. Comme les modérés opposés, eux, aux coupes dans Medicaid, les analystes estiment qu'avec ce texte qui réduit les protections sociales, près de 12 millions d'Américains vont perdre leur couverture santé. Trump parvient donc à faire adopter la clé de voûte de son programme économique qui prolonge les crédits d'impôt mis en place lors de son premier mandat, supprime l'impôt sur les pourboires, l'une des promesses phares de sa campagne, et prévoit surtout des milliards de dollars supplémentaires pour le Pentagone et les agences chargées de la sécurité aux frontières qui appliquent sa stricte politique migratoire.
L'Iran vient de rouvrir son espace aérien, y compris au-dessus de Téhéran. Cet espace avait été fermé le 13 juin dernier, au premier jour de la guerre contre Israël. Seuls deux aéroports visés à plusieurs reprises par les frappes, dont celui d'Ispahan, resteront fermés. Par ailleurs, Emmanuel Macron a dénoncé hier une provocation à l'égard de la France, une offense et un choix inacceptable d'agressivité au sujet des deux ressortissants français détenus par Téhéran depuis 2022. Cécile Kohler et Jacques Paris ont été inculpés d'espionnage au profit d'Israël et risque la peine de mort. Des moisissures dans les cellules, des cafards, mais aussi des pannes de chasse d'eau et des sanitaires sans porte. Le contrôleur général des prisons s'alarme une nouvelle fois ce matin des conditions de détention à la prison de Cesse, près de Toulouse. Alors que l'établissement compte 743 places, les six contrôleurs qui l'ont visité en avril dernier ont dénombré plus de 1300 détenus, dont 30% dorment sur un matelas sur le sol. Depuis la dernière visite, 4 ans plus tôt, la surpopulation s'est aggravée, notamment dans le quartier des femmes. Plus de 2600 postes d'enseignants n'ont pas trouvé preneur à l'issue des concours de recrutement, malgré une baisse du nombre de postes offerts dans les académies ou dans les disciplines les moins attractives. Matière emblématique des difficultés, les mathématiques comptabilisent près de 400 postes non pourvus, soit un poste sur 5 proposé au concours. Le groupe Air France KLM entend consolider ses positions dans le nord de l'Europe et vise le contrôle de la compagnie scandinave SAS, dont il est actionnaire depuis 2024. Air France KLM a annoncé ce matin avoir entamé un processus pour prendre une participation majoritaire au capital de cette entreprise. Des centaines de vols vont encore être annulés aujourd'hui, en particulier dans les aéroports parisiens. Les contrôleurs aériens sont toujours en grève, mouvement déclenché par deux syndicats minoritaires qui réclament une amélioration de leurs conditions de travail et des effectifs plus importants. La Direction générale de l'aviation civile a chiffré à 933 le nombre de vols supprimés hier au départ ou à l'arrivée de la France. C'est environ 10% des vols initialement prévus. Une grève jugée choquante par le Premier Premier ministre François Bayrou hier. Un mot du temps, une partie de la région Rhône-Alpes, le pourtour méditerranéen et la Corse subissent toujours de fortes chaleurs aujourd'hui, avec 14 départements en vigilance orange canicule. Partout ailleurs, les températures iront cet après-midi de 21 à 30 degrés du nord au sud, avec un ciel bien dégagé. Il est 8h05 sur France Musique, la suite de Musique Matin, c'est avec vous, Suzanne Gervais.
Merci Anne Fauquemberg, bonne journée. À suivre dans Musique Matin à 8h10, la chronique, première chronique de la série Opéra et Préjugés de Jean-Philippe Thiélé. À 8h20, un maxi classique de Max Dosholm qui explore les affinités électives de Piazzolla avec Bach. Et puis à 8h30, notre invitée du jour, c'est la violoniste Fanny Stefanelli qui nous emmène avec son instrument sur des chemins de traverse où le répertoire classique croise la folk et le violon électrique. Restez branchés sur France Musique. L'Allegro et le Minuetto du Concerto Grosso numéro 5 d'Alessandro Scarlatti par le Concerto des Cavalières dirigé par Marcello Di Lisa. L'énigmatique Alessandro Scarlatti, c'est le nom d'une toute nouvelle série de podcasts signés, co-signés par Clément Rochefort et Xavier Carrère, à découvrir d'ores et déjà. C'est en ligne depuis le 1er juillet sur le site francemusique.fr. 4 épisodes amples, riches, d'une heure et demie chacun, pour plonger dans la vie et l'œuvre encore méconnue du compositeur. La série sera diffusée les samedi d'août sur France Musique.
Musique Matin avec Suzanne Gervais.
Il est 8h08, c'est l'heure de notre chronique de fin de semaine, car tous les vendredis de cet été, France Musique vous propose une petite chronique originale sur les préjugés, les stéréotypes qui tournent autour de l'opéra. Le titre vient du roman de Jane Austen, vous l'aurez reconnu, Orgueil et Préjugés, car on se trompe souvent sur l'opéra à cause de jugements hâtifs, de premières impressions ratées, de rumeurs aussi. Et Jean-Philippe Thiélé, ancien directeur général de l'Opéra de Paris et président du Centre National de la Musique jusqu'au début de cette année, et surtout grand passionné d'opéra, décrypte pour nous ses idées fausses avec science et humour. Pour commencer, premier épisode, l'opéra, c'est ringard.
L'opéra, monsieur, c'est ringard. Les théâtres sont vieux, les costumes hors d'âge, les décors en carton poussiéreux, les histoires, c'est l'Antiquité, tout ça, c'est fini. Imaginez un chef d'entreprise, il dit, je fais grande semaine cohésion, ce soir, c'est la décontraction, c'est le fun, on va à l'opéra. Mais vous avez la moitié qui se met en congé maladie, monsieur. C'est pareil si vous avez une amie, vous voulez lui proposer une soirée, dites, ce soir, on va à l'opéra, un truc bien long, un Wagner, là... Mais vous la perdez à l'entracte, c'est fini tout ça.
Voilà pour commencer cette série de chroniques, la première idée fausse dont l'opéra est victime. Oui, victime. Car on lui reproche des tas de choses à ce vieil art lyrique né il y a plus de 400 ans et qui a bien des difficultés à notre époque. L'opéra est pour moi une passion, depuis plusieurs décennies, depuis que je l'ai découvert à l'Opéra de Marseille à la fin des années 70. J'ai eu la chance ensuite de diriger l'Opéra de Paris aux côtés de Stéphane Lissner, puis de présider le Centre National de la Musique. Je préside aussi une jolie petite association, Opera for Peace, qui aide de jeunes chanteurs du monde entier. Et j'ai aussi pas mal écrit sur des compositeurs que j'aime et sur l'avenir de l'opéra. Les idées fausses dont on va parler ici, elles sont agaçantes. Parce qu'elles sont autant d'obstacles entre le plus grand public et les maisons d'opéra.
Are you aware that no one actually likes opera?
I like opera.
Do you?
I do.
Alors c'est vrai, certains opéras ont mal vieilli et je ne vais pas citer trop de titres pour éviter de recevoir trop de courriers de protestation. Certains ont des longueurs, certaines mises en scène sont ridicules et dans les quelques milliers de soirées que j'ai passées à l'opéra, je l'avoue, il m'est arrivé de m'ennuyer et de trouver certains livrets bien faibles ou le jeu de certains chanteurs et certaines chanteuses absolument ridicule. Et pourtant, à supposer qu'on arrive à définir la ringardise en matière d'art, ce qui est ringard a pu être un jour à la mode, je renvoie à Bourdieu ou Bachelard, on ne reproche pas au cinéma d'être ringard car on a vu un mauvais film, on ne condamne pas la littérature après avoir abandonné, page 30, un roman de gare. L'opéra était la culture populaire au 19e siècle et encore aujourd'hui, il est beaucoup plus accessible et donc populaire qu'on ne le pense. Il y a d'abord des mélodies que tout le monde a en tête, même sans connaître le titre d'où la mélodie est tirée. Il y a des liens innombrables avec la culture la plus large, dans la publicité, dans le dessin animé ou le cinéma. L'opéra est surtout une expérience formidable, un spectacle total. Le Gesamtkunstwerk, cher à Richard Wagner, avec du théâtre, de la musique, des solistes, des choristes, de la danse, souvent. Et quand tout cela est réuni et réussi, c'est assez rare, mais ça arrive, l'opéra est alors extraordinaire. On y vibre, on y rêve, on y pleure. Pour moi, c'est la mort de Werther ou cette simple phrase du dernier acte de la Bohème. On peut aussi y rire. L'opéra peut être fun, en particulier lorsque la musique souligne les effets, accompagne la théâtralité, part dans l'absurde jusqu'au délire, comme l'a bien montré Alessandro Baricco.
Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'en s'issipons pas. Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Le roi Ménélas. Le roi Ménélas.
Par ailleurs, l'époque est heureusement révolue où il fallait s'habiller, respecter des codes, où le parterre était jugé par le public des loges. Bon, je déconseille toujours d'arriver en retard. Je déconseille aussi la fouille du sac à la recherche du bonbon à la menthe alors que Isolde va attaquer la scène finale de Tristan. Mais à part ça, on peut venir très simplement comme on va au cinéma et comme l'espérait jadis Roland Barthes. Bref, pour franchir les portes des théâtres, il faut essayer. Dans l'idéal, être aidé, accompagné. Et ce rendez-vous tout l'été sur France Musique peut y contribuer. Alors, foncez à l'opéra. À vendredi prochain.
Mais oui, foncez à l'opéra. Opéra et préjugés, une chronique signée Jean-Philippe Thiellet à retrouver sur le site de France Musique et sur l'appli Radio France. Et puis à la rentrée dans un livre, En finir avec les idées fausses sur l'opéra, aux éditions de l'Atelier en partenariat avec France Musique.
France Musique, le 7h39 de Suzanne Gervais, Musique Matin.
Et tout l'été, France Musique amène le concert chez vous, pour vous, avec deux rendez-vous quotidiens. À 14h aujourd'hui, rendez-vous chambriste, le Quatuor Ébène interprète Beethoven, Haydn et Brittum à l'auditorium de la Maison de la Radio. Et ce soir à 20h, du lead, la soprano Anu Komsi chante les quatre derniers leaders de Richard Strauss aux côtés de l'orchestre symphonique de la BBC dans le cadre du festival de musique d'Aldebourg. Tout de suite, un petit avant-goût du concert de l'après-midi avec le Quatuor Ébène et Haydn. Tout en facétie, en délicatesse et en ricochet, le menuet Allegretto du quatuor à cordes en ré majeur opus 64 numéro 5 de Joseph Haydn par le quatuor Reben que l'on retrouve à 14h dans le concert de l'après-midi, quasiment 8h20 sur France Musique, l'heure de Maxi Classique par Max Dosolm. Il y a 33 ans, jour pour jour, disparaissait le grand, l'immense Astor Piazzolla, l'occasion de se rappeler des amours classiques du roi du tango nuevo, le nouveau tango.
Notre histoire commence à l'ombre d'une cour d'immeuble à New York. Une fenêtre est restée ouverte, un enfant écoute. Astor Piazzolla aurait préféré recevoir un saxophone plutôt qu'un bandoneon pour ses 8 ans. Et l'histoire raconte que c'est ce jour-là, en écoutant son voisin Bella Vilda répéter une œuvre de Bach, que le petit Piazzolla a entrevu son destin. Aussitôt, il demande à prendre des cours de piano avec cet ancien élève de Rachmaninoff. Le bandoneon peut attendre. Astor Piazzolla grandit en jouant du tango et en écoutant le contrepoint de Bach, la rutilance des orchestres de Gershwin et les audaces rythmiques de Stravinsky. Revenu en Argentine, il passe ses après-midi aux répétitions de l'orchestre symphonique du théâtre Colonne et, le soir, il fait danser les Argentins dans les bals avec son bandoneon retrouvé. Mais Astor veut maîtriser les techniques d'écriture du passé pour se découvrir. Il devient alors l'élève d'une légende en Argentine, le compositeur Alberto Ginastera. Quand des années plus tard, à Fontainebleau, en 1954, Nadia Boulanger lui conseille de trouver l'inspiration dans le répertoire de son pays, Astor Piazzolla se souvient-il de cette œuvre de Ginastera, dont la partition traînait un jour sur le piano. Une danse traditionnelle milonga, cousine du tango. Soit, lui aussi écrira des tangos et des milongas, mais d'une complexité inouïe. La révolution piazzolienne du tango, le tango nuevo, passera par une incorporation de formes et d'esthétiques classiques et contemporaines sans crainte des dissonances. Par exemple, quand le compositeur et pianiste Gerardo Gardini joue ça, je ne peux m'empêcher de penser à la fougue de ce concerto de Shostakovich. Dans ces deux œuvres écrites dans les années 50, qui est le plus radical ? Je dirais Piazzolla. Compositeur pour le Kronos Quartet, auteur d'un étonnant concerto pour bandoneon et des quatre saisons à Buenos Aires, où flotte dans l'air quelque chose du Bach de l'enfance.
Petite escapade à Buenos Aires, maxi classique de Max Dosolm, à retrouver sur le site de France Musique et l'application Radio France. Nous, on quitte le tango, mais on reste dans la danse avec une valse douce. Thank you. entraînante, enivrante même, la valse douce de Michel Portal par le violoniste Laurent Corsia. Michel Portal à la clarinette basse, une pièce gravée au disque sur ce disque danse au pluriel. Un disque de 2004 chez Naïve qui avait vraiment propulsé la carrière de Laurent Corsia. L'été, saison de la danse, saison des amours. Allez, une petite parenthèse folle que ce matin sur France Musique qui tombe à point juste avant l'arrivée en studio de notre invité.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. And even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courting along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love been good to me.
Une voix grave, un peu éraillée par l'âge, vous l'aurez peut-être reconnue, c'est celle de Johnny Cash et cette ballade « Love's Been Good to Me » sur le dernier album du chanteur, disparu en 2003. Une ballade qui est un standard, elle a aussi été chantée par Nina Simone ou Frank Sinatra. Pour ne citer que, il est 8h30, quasiment 8h30 sur France Musique. Il est temps de retrouver l'invitée du jour, elle s'est installée en studio.
France Musique. Le 7h39 de Suzanne Gervais, Musique Matin.
Notre invitée qui est violoniste, on l'a entendu jouer pendant 10 ans au sein du Spiritango Quartet et elle continue désormais sa route seule, ou presque, on va le voir, pas vraiment, dans son premier album solo Esprit Folk, paru au printemps chez Indécence. Elle a su s'entourer de nouveaux compagnons de route et parmi eux quelques compositeurs d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur France Musique, Fanny Stefanelli.
Bonjour Suzanne.
Fanny, pour commencer, c'est quoi l'esprit folk pour vous, puisque c'est le nom que vous donnez à cet album ?
Oui, c'est mon esprit folk à moi. C'est vrai que je me suis un peu approprié le mot folk. On pourrait croire que je vais faire un album country des années américaines 60 et pas du tout. En fait, c'est un esprit folk un peu un... folklore, un retour aux sources avec un voyage à travers différentes cultures, différents pays. On va aller en Espagne avec Granados, en Roumanie avec Bartok, on va aller aussi un peu en Argentine, on va aller au Népal, on va vraiment voyager. Et c'est aussi un esprit folk dans le sens décalé, un peu un pas de côté, parce que je propose justement le passage du violon acoustique au violon électrique.
On va y revenir justement. Peut-être juste avant, Fanny Stefanelli, les folklores, vous avez déjà plongé dedans à pieds joints. Ils vous accompagnent depuis vos débuts au sein du Spirit Tango Quartet.
Oui, j'ai fait pendant plus de 10 ans, même bien avant le Spirit Tango Quartet. Mais c'est vrai que je fais du tango depuis des années et j'ai cet amour de la musique, même pas que tango. J'écoute plein de styles différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis très longtemps et d'où aujourd'hui cet album encore plus singulier peut-être.
Vous vous souvenez de ce moment étudiante en violon où vous avez rencontré le tango, pour ne citer que lui, mais ces musiques d'inspiration populaire, folklorique?
J'ai fait beaucoup de tango aussi, pas que au conservatoire de Paris, mais dans différentes écoles, et j'ai fait aussi de la musique un peu celtique. J'ai fait plein de styles différents, donc c'est vraiment quelque chose qui m'inspire.
C'est un premier album solo, je le disais, pour vous, Fanny Stefanelli, oui. Ça n'est pas rien. Est-ce que ça a été difficile de composer le programme? On va écouter évidemment quelques pistes de cet album dans quelques minutes, ou est-ce que ça tombait sous le sens?
Alors non, c'était pas évident. Au départ, tout part d'une création de mon mari, Mathieu Stefanelli, qui s'appelle Sur la voie du Shambhala. Au départ, c'était vraiment juste cette pièce-là, qui était une commande en fait, donc, sur violon électrique. Et en fait, à force de me familiariser avec le violon électrique et tous ses effets, l'idée m'est venue et on s'est dit en fait finalement il faut en faire un album. Et donc après il a fallu trouver justement un sens à cet album et savoir exactement ce qu'on allait mettre dedans et ce qui me ressemblait aussi le plus, donc d'où ce voyage à travers différents folklores. Voilà.
Est-ce difficile, est-ce un défi ou une libération peut-être, je ne sais pas, Fanny, de cheminer seule quand on a longtemps fait partie d'un ensemble, en l'occurrence dans votre cas du Spirit Tango Quartet?
Oui, alors dans mon cas, c'était très difficile parce qu'en effet, quand on fait partie d'un groupe, d'une entité, pendant des années, il faut vraiment trouver quelque chose qui nous singularise et qu'on va pouvoir assumer. Donc ça a vraiment pas été évident, mais il y a un moment donné où les planètes s'alignent et où il y a quelque chose qui ressort et voilà.
La folk, c'est au sens premier, on l'a rappelé, le folklore. Les folklores, et ils sont nombreux évidemment à faire briller votre instrument, le violon, notamment en Europe de l'Est. Pleine de caractère, rugueuse aussi un petit peu, la première des danses roumaines de Béla Bartók sur France Musique, interprétée ici par notre invitée, la violoniste Fanny Stefanelli, dans son premier album solo, Esprit Folk, paru chez Indécence. Alors Bartók, musicien folk, on peut le dire, musicien de terrain, qui a arpenté les campagnes hongroises à la recherche de mélodies populaires. Fanny Stefanelli, elles ont quelle place ces danses roumaines de Bartók, composées en 1915 dans le répertoire pour violon et dans votre cœur, tout simplement?
Alors moi, je les ai connues avec un violoniste, Yves Riguiclis, avec qui j'ai eu évidemment l'occasion de faire des masterclass quand j'étais toute petite. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspirée sur ces danses roumaines-là. Gila Pape aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de violonistes qui m'ont inspirée et c'était pour moi une évidence de le mettre dans cet album.
Pourquoi est-ce que vous aimez les jouer ? La question est peut-être pas facile.
Si,
mais...
parce qu'il y a toujours ce rapport, c'est peut-être un petit peu comme dans le tango finalement, entre musique écrite et une sorte de liberté qu'on peut avoir en termes d'interprétation. Donc voilà, c'est voilà.
Et est-ce que justement la liberté, restons sur ce mot, est-ce qu'on peut prendre plus de liberté en jouant ces musiques très écrites, savantes, mais inspirées du folklore qu'en jouant, je ne sais pas, par exemple un concerto de Mendelssohn?
Ben, j'ai, en tout cas, moi, quand je la joue, c'est sûrement propre à chacun. Moi, j'ai l'impression, dans certaines pièces, notamment les danses roumaines, de pouvoir avoir plus de liberté dans le tempo et dans l'interprétation, justement parce qu'il y a ce folklore qui le permet. Voilà.
Fanny Stefanelli, vous jouez dans ce disque du violon acoustique, là on vient de l'entendre, mais aussi du violon électrique, ce qui n'est pas si fréquent pour les violonistes de formation, disons, classique, académique. Parce que pour beaucoup de gens, le violon électrique, c'est surtout ça. Et non, pas d'erreur, vous êtes bien sur France Musique, vive les années 80, c'était quelques secondes de Nuit Magique. Catherine Lara et son violon électrique qu'elle a contribué à vraiment populariser et qui fleure bon toujours un petit peu les années 80. Fanny Stefanelli, quelle est l'image du violon électrique aujourd'hui ? Quand avez-vous décidé de brancher votre violon aussi pour donner peut-être une nouvelle image ?
Ben oui, justement, c'est ce qui m'intéresse dans cet album aussi, toute la démarche, hein, c'est que le violon électrique est associé voilà, au milieu de la pop. Et ce qui m'intéressait, c'était de l'emmener dans le milieu classique, parce qu'on en a justement une mauvaise image, un son peu singulier, un son un peu nasillard et quelque chose comme ça, de pas très très intéressant finalement en termes de sonorité. Et justement, je voulais l'apporter dans le... Un peu comme les accordéonistes finalement, parce que l'accordéon était associé au bal musette.
À quelque chose d'un peu ringard,
voilà,
en fait.
Exactement. Et aujourd'hui, il y a Félicien Brut, énormément d'accordéonistes qui redonnent toute leur marque de noblesse à l'accordéon. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire avec le violon électrique dans le milieu classique. Parce que je pense qu'en termes de sonorité, j'utilise aussi des pédales d'effet. Donc je pense qu'il y a tout un univers à créer et c'est ce qui m'intéressait.
C'était votre ambition. Voilà. Quel regard diriez-vous qu'on porte aujourd'hui, par le bout de votre lorgnette, dans le monde de la musique classique, sur les instruments amplifiés ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être un désintérêt, voire un mépris ? Est-ce qu'il y a comme ça
Bah, c'est vrai qu'on ne vient pas fabriquer le son, donc il y a peut-être toute cette partie de la matière, ou ce côté presque artisanal qui peut, on peut penser qu'il va se perdre.
Alors que c'est essentiel, c'est une grande partie des études musicales.
C'est une toute autre manière de jouer. Donc je pense qu'il faut se familiariser avec les systèmes d'amplification, etc. Mais il y a peut-être quand même quelque chose à faire et faut pas forcément les mettre en dualité ou devoir choisir entre un violon électrique et un violon acoustique. On peut aussi se dire pourquoi pas et voilà.
Qu'est-ce que l'amplification de votre instrument apporte à votre interprétation selon vous ?
Alors, mais justement, moi, je ne l'utilise pas pour le côté, on va dire, rock. Je trouve que ça marche très bien dans un univers un peu planant, onirique, voire presque un peu fantomatique. Et c'est intéressant de venir le voir aussi en live, parce qu'on me voit passer d'un violon à un autre, et du coup, presque d'un univers à un autre. Donc, ça installe un espace-temps, enfin, quelque chose de vraiment, je trouve, différent et assez intemporel. Voilà.
8h39 sur France Musique, nous sommes en compagnie de la violoniste Fanny Stefanelli et on écoute le temps d'une autre miniature, ce que ça donne la rencontre du violon électrique et de Béla Bartok.
Thank you.
Béla Bartók est encore avec nous ce matin sur France Musique, la sixième des danses roumaines cette fois. Nous sommes en compagnie de Fanny Stefanelli et nous entendions son interprétation électrique. Voilà, extrait de cet album Esprit Folk paru au printemps. Je le disais, Fanny, pourquoi jouer certaines de ces danses roumaines à l'acoustique et d'autres à l'électrique ?
Ben justement, c'était assez réfléchi. J'aurais pu me dire, bon allez, je fais tout l'album sur violon électrique, je m'embête pas, on va faire le buzz, hop, hop, hop. Et pas du tout, en fait, j'ai vraiment réfléchi sur quelle pièce l'utiliser, les endroits où ça apportait quelque chose, d'autres où, au contraire, ça desservait la musique. Donc voilà, c'était très réfléchi dans ce roumaine de Bartók-là qui ont déjà été enregistré énormément de fois et par énormément de très très bons violonistes. C'était une touche de créativité aussi.
Voilà. C'est important pour vous quand on est dans un projet de disque, d'enregistrement, voilà, de pièces qui ont déjà été enregistrées maintes fois, de se dire j'apporte quelque chose de plus, j'apporte quelque chose de différent qui légitime un petit peu ce projet de disque.
Ben oui, c'est ça qui m'intéresse, une forme de créativité. Et encore une fois, c'est pas les plus beaux enregistrements ont été faits, mais beaucoup de gens ont beaucoup de talent. Et moi, ça me ressemblait plus de faire un album avec quelque chose d'un petit peu différent, voilà, plutôt que de réenregistrer une énième fois voilà, quelque chose qui a déjà été très très bien fait.
Fanny, vous passez à l'électrique, si je puis dire, sur d'autres œuvres que les danses roumaines de Bartók. On écoute Sati.
Thank you.
Le violon électrique de Fanny Stefanelli, notre invité Mathieu Stefanelli l'accompagne au piano. C'était la première gnossienne d'Eric Satie, une gnossienne ici planante à souhait. Il y a un côté presque un petit peu trance dans cette interprétation, dans ce timbre en fait du violon électrique Fanny Stefanelli.
Oui, voilà, il y a presque un son, je dirais, un peu vintage et toujours ce rapport au temps. Je trouve que ça donne presque une impression de ce rapport entre passé et présent. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a, et puis il y a toutes les pédales d'effet que j'utilise hein, qui apportent aussi ce côté comme ça un peu onirique. Voilà.
Quand est-ce que vous avez rencontré le violon électrique ?
Alors, j'en avais un chez moi qui était dans une boîte sous la poussière il y a un petit moment. Et puis, en fait, ça part toujours de la pièce de Mathieu Stefanelli qui s'appelle Sur la voie du Shambhala. Et en fait, c'est grâce à cette création-là qu'on a fait appel à un luthier qui s'appelle Sacrilegious Design et qui ne fait que des pièces uniques. Et on lui a commandé ce violon-là pour cette pièce-là au départ et du coup après pour l'album.
Mais justement, j'allais vous demander cet instrument, cette commande à ce luthier, parce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'instrument. Je crois qu'il a une volute un petit peu particulière.
Alors, il s'appelle le Bouddha. Oui. Justement en rapport avec la pièce Sur la voie du Shambhala. C'est un violon en bois d'acajou du Brésil. Voilà, il a 5 cordes et il est magnifique.
Et il est magnifique. Et du coup, vous le jouez, il a fallu apprivoiser un petit peu ce nouvel instrument qui est en bois du coup, mais qui est amplifié.
Oui, oui, oui. Ah oui, il m'a fallu un petit temps d'adaptation quand même, ne serait-ce qu'en termes de poids, de passer d'un violon à un autre durant le concert. Et puis le fait qu'il ait 5 cordes aussi. Parce que c'est pas du tout en termes de centre de gravité, c'est pas du tout la même chose. Et c'est complètement deux manières de jouer différentes, de jouer de l'acoustique et de l'électrique. Il n'y a pas du tout les mêmes vitesses d'archet, la même émission.
Ah oui, la technique est vraiment différente. Oui. Il faut désapprendre et réapprendre, en fait.
Désapprendre, réapprendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec le violon acoustique, on donne beaucoup d'élan, beaucoup d'air. On veut qu'avec la caisse de résonance, que voilà. Alors qu'avec l'électrique, les effets arrivent tout de suite et répondent tout de suite. Donc il faut beaucoup plus équilibrer et doser son jeu. Donc c'est presque deux manières de jouer complètement différentes. Donc ça m'a, voilà, un petit temps d'adaptation.
Ouais, et puis depuis le printemps, vous avez donné plusieurs concerts avec ce programme. Quelle est la réaction du public quand vous passez comme ça des gens peut-être qui vous suivaient au sein du Spirit Tango Quartet, qui ont été habitués à vous entendre sur violon acoustique ? Quels sont les retours
des auditeurs ? Les gens sont très très intrigués et sont plutôt agréablement surpris de ce mélange d'univers. Ils trouvent ça assez captivant. Et c'est vrai que ça vient vraiment se vivre en réel parce que j'utilise aussi un looper. Donc un looper, c'est un peu comme un enregistreur finalement où on va pouvoir superposer couche 1, couche 2, couche 3,
couche 4. Faire un instrument polyphonique en fait.
Voilà, donc ça se vit aussi en réel et non, ça se passe très bien sur scène.
Fanny Stefanelli, quand on a un petit peu préparé l'émission, je vous ai demandé quelles étaient éventuellement vos références folk à vous qui vous tenaient à cœur en sortant éventuellement des sentiers du classique. On va écouter tout de suite Alison Moorer, un extrait du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.
Daylight has found me here again. You can ask me anything but where I've been. Things that used to matter seem so small when you're looking for a soft place to fall. Don't misunderstand me, baby, please. I didn't mean to bring back memories. You should know the reason why I was looking for a soft place to fall.
A Soft Place to Fall, ballade romantique d'Alison Moorer, chanson qui fait partie de la bande originale du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, un petit chemin de traverse ce matin, Fanny Stefanelli. Un de vos choix quand je vous ai demandé de nous donner un petit peu des petites références folk, autres que classique ou musique folklorique, pourquoi ce choix?
J'avais en tête comme ça Johnny Cash ou Bob Dylan, mais je me suis dit que c'était peut-être intéressant aussi d'entendre une femme et puis un folk un peu slow, un peu lent finalement, qui change du côté country qu'on connaît. Donc voilà, j'avais envie de partager ce titre-là.
Et puis la folk en musique classique, disons, c'est aussi ceci.
I wonder as I wander out under the sky, how Jesus our Savior did come for to die for poor wandry people like you and like I. I wonder as I wander out under the sky, when Mary birthed Jesus 'twas in a cow stall, with wise men and farmers and shepherds and all. But high from the heavens a star's light did fall, and the promise of ages it then did recall. If Jesus had wanted of any wee thing, a star in the sky or a bird on a wing, or all of God's angels in heaven for to sing, he surely could have had it, 'cause he was the
L'esprit folk est avec nous ce matin sur France Musique. L'esprit folk ici selon Luciano Berio, dont nous fêtons cette année 2025, nous fêtons son centenaire. C'était l'une des folk songs, I Wonder As I Wonder, ici par Dawn Upshaw. Fanny Stefanelli, une réaction peut-être suite à cette folk song, et puis peut-être nous dire si les voix humaines vous inspirent, vous qui êtes instrumentiste.
Eh ben, merci beaucoup déjà de m'avoir fait découvrir cette pièce-là que je ne connaissais pas. Je trouvais ça ouais, très très joli, avec une voix comme ça qui m'a fait penser à Barbara. Voilà, et oui, évidemment, les voix inspirent...
Dans les instrumentistes.
Oui, bien sûr. Moi-même, je ne chante pas encore, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et même dans d'autres styles de musique que j'écoute, beaucoup de flamenco aussi, etc. Donc oui, la voix, évidemment, a ce côté retour aux sources, la voix humaine, primitive, voilà.
Fanny Stefanelli, est-ce que de l'esprit folk, on ne retiendrait pas l'esprit de liberté, s'autoriser en tant qu'instrumentiste à traverser les répertoires, à mélanger les genres, à changer d'instrument aussi?
Bah c'est ça. Pour moi, esprit folk, c'était sortir de ma zone de confort, et encore une fois, et proposer quelque chose d'un peu singulier, qui me ressemble, donc c'est mon esprit folk à moi, exactement.
Votre esprit folk à vous. Un mot peut-être de votre été, vous avez une actualité cet été, évidemment, comme tous les musiciens qui partent sur la route, notamment des festivals, des concerts, peut-être un événement ou deux que vous aimeriez nous signaler?
Oui, alors là c'est pas pour esprit folk, c'est un autre projet en parallèle, mais je continue malgré tout le tango, voilà, donc un nouveau quintet, on sera au festival Saint-Robert le 9 août, avec Emmanuel Rosfelder à la guitare, Victor Hugo Villena au bandoneon, Laure Favkan au piano et Nathan Elmanoury à la contrebasse. Et sinon, je jouerai aussi encore Esprit Folk le 23 août au festival Le Son des Tilleuls. Il y aura aussi d'autres choses en septembre en Belgique, etc. Enfin, voilà,
Mais en tout cas, deux dates en août. Merci beaucoup Fanny Stefanelli. On se quitte avec un autre titre de votre album aux allures un petit peu de pastis. C'est de pastiche et pas de pastis. C'est Agamania de Régis Campo. Merci d'avoir été avec nous sur France Musique.
Bah, merci à vous.
La matinale pour aujourd'hui, la réponse à notre jeu était Corelli, Arcangelo Corelli, compositeur de la plus connue des folias baroques, sa sonate en ré mineur, opus 12. Bravo à nos gagnants Sylvie Bousseau, Françoise Vanier, Henri Ravary qui recevront un exemplaire du disque Vivaldi du concert de la Loge. Quant à nous, on se retrouve lundi, nous serons pour trois matinales en direct de Montpellier. Et oui, le festival Radio France Occitanie Montpellier commence dimanche soir et cette année ce sont les 40 ans. Un grand merci à toute l'équipe qui travaille avec moi pour cette première semaine ensemble. Colin Gruel à la réalisation, Victorien Hodge à la technique. Un grand merci aussi à Marie-Christine Ferdinand et Flora Sternadel pour la préparation de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end presque à l'écoute de France Musique.
France Musique, partenaire du spectacle immersif inédit, Le Mystère Mozart. Plongé dans les œuvres intemporelles d'un des plus grands compositeurs de tous les temps, au cours d'un parcours mêlant musique, théâtre, danse, costumes et mapping visuel. Une sortie culturelle originale qui séduit famille, amis et passionnés. Le Mystère Mozart, actuellement au Collège des Bernardins à Paris, un événement France Musique, une chaîne du groupe Radio France. Été classique, France Musique vous accompagne tout l'été à 10h30, du lundi au samedi. Laissez-vous surprendre par une programmation tout en légèreté et partez chaque matin à la rencontre des plus beaux artistes, des grands classiques et des nouveaux répertoires. Été classique, une balade musicale en liberté, du lundi au samedi à 10h30 sur France Musique et l'appli Radio France.